BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les vendredis, les meilleurs professionnels de ce secteur de l'immobilier laissent leur place aux meilleurs journalistes. Et à mes côtés aujourd'hui, Marine Richard du Figaro et le journaliste indépendant Pierre Chevillard. Et au programme, comme tout démarrage des experts de l'IMO du vendredi, le topo tôt de la semaine. Est-ce que c'est la fin des prêts bonifiés des banques? Est-ce que c'est la fin des offres commerciales ultra alléchantes? Peut-être pas, peut-être pas. Par contre, il y a une chose qui est certaine. Attention pour vos vacances, si vous comptez demander un crédit immobilier à la rentrée, Pierre Chevillard vous dira qu'il va falloir arrêter les folies pendant cette petite période estivale. Parmi les autres sujets que nous allons aborder également, prix, volume de vente, profil des acheteurs, on vous dira tout, et c'est Marine qui le fera, sur le marché de l'immobilier ancien, puisque les principaux réseaux ont tous publié leurs chiffres pour le premier semestre. On fera également la même chose avec Pierre sur l'immobilier neuf, et on vous dira que le neuf, c'est peut-être une vraie opportunité pour nos primo-accédants. Vous n'avez pas échappé à la canicule, vous n'échapperez pas non plus au débat sur la climatisation, vous échappez en revanche à notre petit jingle. Alban, il a voulu le retirer. Alban en régie, à notre réalisateur, qui s'est dit, il faut qu'elle arrête ce sommaire, il est beaucoup trop long. Bah justement, allez, on y va. Tant pis, je vous dirai pas les autres sujets dont on va parler.
Les experts de l'IMO, le débat.
Je peux y aller, Alban, ou pas? C'est bon, il me dit oui, vas-y. Alors, nous y allons. Pierre Chevillard, journaliste indépendant, bonjour.
Bonjour, Marie.
Et Marine, bonjour, Marine. Richard. Et Marine Richard du Figaro, bonjour.
Bonjour, Marie, bonjour, Pierre.
Et là, j'en appelle à Alban de nouveau. Est-ce qu'il peut nous lancer le super méga jingle formidable?
Les experts de l'IMO, le topoto de la semaine.
Mais oui, le topoto de la semaine. Et ça va un peu mieux, hein, Pierre?
Alors, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on parlait d'envoler au premier semestre avec la BCE, l'obligation assimilable du Trésor, qu'elle mettrait à l'onde immobilier, tout ça. Et qu'en fait, on a pris, on est en gros passé hors de mémoire, on devait être à 3,05 en janvier, taux de durée confondu, aujourd'hui à 3,25. Donc, il y a très peu de hausse. En fait, c'est tout simple. C'est lié au fait que les banques ont besoin de clients. Même si les coûts de refinancement augmentent, elles font des efforts. Elles prêtent à marge nulle, voire parfois un petit peu négative, comme elle avait dit l'année dernière, la CPR, le gendarme du crédit.
Donc, c'est pareil. PCR, ça nous rappelle un petit souvenir.
Et donc, vous avez un 20 ans moyen qui est aux alentours de 3,45, 3,50, qui reste.
Ça n'a pas bougé depuis 2-3 mois, là.
Non, ça n'a pas bougé. Et puis, si on raisonne avec une inflation à 2,5, je crois, on emprunte en taux réel à 1,50, donc ça reste plutôt pas mal.
Et même moins, en fait, Pierre, parce qu'on a nos petits prêts bonifiés.
Oui, on a les prêts à taux bonifiés. C'est Cafpi qui avait fait le calcul il y a 15 jours, qui nous disait qu'on pouvait, si on cumulait, notamment dans le 9, un PTZ, un prêt action logement à 1%, les prêts à taux bonifiés, les offres des banques, etc.
Et une petite boîte de chococo pour
C'est-à-dire
banquer.
Qu'on avait un 25 ans moyen qui était aux alentours de 3,60, mais qu'en fait, sur 25 ans, on pouvait emprunter aux alentours de 1,50, si je me souviens bien, voire un peu moins.
C'est génial.
Donc, c'est vraiment une belle opportunité.
Mais alors, question de cette opportunité, c'est-à-dire qu'on s'est tous dit, est-ce que c'est pas le début de la fin de ces fameux prêts bonifiés? Alors, je vais pas faire la promo de la Société Générale, elle le fait elle-même partout, mais il y a eu l'offre à 3,10 là, pour tous les profils sur 20 ans. Il y a eu les petits prêts bonifiés du Crédit Agricole, j'en cite plusieurs. Mais voilà, Pierre, est-ce que c'est le début de la fin ou est-ce que ça se poursuit la
semaine? En fait, toujours pour se fier à ce que disait le courtier Cafpi il y a 15 jours, c'est que les banques prêtent aux CEDI, c'est-à-dire que les banques ont des objectifs commerciaux qu'elles visent tous les 2-3 mois à peu près, et ça change. Et que, par exemple, la banque que vous venez de citer a
prolongé son offre. Oh là là, regardez, tu pas de marque.
Hein, et que Cafpi nous disait qu'il y a peut-être des offres qui vont s'arrêter, mais qu'à la rentrée, comme les banques, la production de crédit moins forte qu'attendue, les banques ont besoin de prêter, donc la fenêtre de tir risque de se rouvrir à la rentrée.
Et juste pour petite info, parce qu'hier soir, on l'a appris, quand même, a priori, ces offres-là, elles sont maintenues pour l'été. Donc, on a quand même ce sentiment que finalement... Par précaution, elle mettait des dates de péremption, les banques, sur ses offres et ses petits prêts bonifiés. Là, finalement, elles poursuivent un peu l'offensive, preuve que la production n'est peut-être pas encore formidable.
Oui, ils ont besoin de clients, c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire que quand vous allez conquérir un client avec un taux immobilier, un crédit immobilier, c'est le seul outil de conquête de clientèle, vous faites un sacrifice sur le taux, mais que derrière, vous allez, comme il dit ça, entretenir une relation commerciale de long terme.
Et
que vous allez vendre une assurance, éventuellement une assurance emprunteur, des placements. Si vous avez des primo-accès qui vont avoir des enfants, on va ouvrir des livrets pour les enfants assez rapidement, c'est une pratique assez courante, et que du coup, pour la banque, ça leur fait, ils vendent des produits sur lesquels ils font des marges.
Oui, c'est ça, c'est pas tant sur le crédit en tant que tel que les banques font les marges, mais c'est ailleurs.
Et c'est pas une nouveauté, ça a toujours été un petit peu comme ça, et que donc, quand on est dans une période où la production est moins forte qu'attendue, eh bien les banques poursuivent ces efforts sur le crédit immobilier, quitte ensuite à se rattraper plus tard sur ces produits-là.
Bon, des banques... Une bonne nouvelle aussi, c'est le taux d'usure, là.
Ouais. Ah oui, oui, il a réaugmenté un petit peu, là, pour le trimestre.
Le 26 juin, là, on a vu qu'il augmentait de 0,1 point. Donc, c'est le taux plafond au-delà duquel donc, une banque ne peut pas prêter. Donc, il est relevé très légèrement, mais il a quand même été relevé.
Ça donne plus de souplesse aux banques.
Voilà. Et on a aussi l'inflation qui a reflué, là, de
1,8,
elle a 1,8 en juin contre 2,4 en mai. Donc, on a quand même plusieurs bonnes nouvelles.
Oui, c'est des indications, Marine, sur l'idée que peut-être qu'on n'aura pas la flambée que certains redoutaient. Oui, moi la première d'ailleurs.
Non, mais les banques n'ont pas répercuté. En fait, elles s'attendaient à la hausse donc, des plafonds, des taux directeurs de la BCE. Ouais.
Donc, ça, elles l'avaient anticipé.
Voilà, elles l'avaient anticipé. Donc, elles ne l'ont pas répercuté sur les taux de crédit.
Et le spectre d'une nouvelle hausse en septembre semble s'éloigner à ce stade, compte tenu de ce qui est en train de se jouer au Moyen-Orient. Alors, évidemment, on croise les doigts et tout ce qui va avec. Enfin, voilà.
La difficulté avec les taux, c'est qu'ils ont un côté un peu imprévisible. Et qu'il y a eu des précédents. Je crois que c'était en six mois, ils avaient pratiquement triplé. Quand il y a eu ce problème de taux d'usure, c'était en 2023 à peu près.
Oui, c'était au moment de la crise inflationniste et au déclenchement de la guerre en Ukraine.
Personne n'avait prévu ça. On savait que ça allait monter, mais pas aussi rapidement. Alors là, il y a ce côté imprévisible. C'est pour ça, comment dire, d'une certaine façon, c'est une variation sur le bon moment pour acheter. Emprunter aujourd'hui ou à la rentrée, ça va vous coûter sans doute moins cher qu'à l'automne prochain, mais à l'automne prochain, ce ne sera pas hors de prix.
Alors, vous allez nous projeter, on va continuer puisque vous me parlez de la rentrée. Avant la rentrée, il y a l'été. Et oui, quand même, les vacances ne sont pas encore complètement passées. Pour certains, elles n'ont même pas démarré. Et là, ce que vous nous dites, c'est pour toutes celles et ceux qui, justement, ont dans les cartons un projet IMO et l'idée d'aller toquer à la porte de leur banquier, vous leur dites... Calme pendant cet été. Hein.
Les banques, elles veulent de la sécurité, et notamment, elles veulent avoir des certitudes sur votre capacité à rembourser. Si vous gérez mal vos finances personnelles, si vous êtes tout le temps à découvert, vous introduisez du risque.
Même sur un one-shot estival où j'ai envie d'aller au casino...
Ça peut toujours s'expliquer, mais si, par exemple, vous souscrivez un crédit à la consommation pour payer vos vacances aux Maldives, la banque, elle le verra... Ça va pas bien se passer.
Qui sont les potes de Pierre Chevillard.
Je dirais les Maldives comme je dirais la Bretagne. Hein, c'est voilà. Mais c'est la banque, elle va pas aimer ça. Si vous êtes tout le temps à découvert, si vous jouez en ligne, si vous spéculez, c'est tous les comportements.
Là, typiquement pendant leur Coupe du Monde de foot, là, si c'est un événement assez exceptionnel, ça peut être retoqué.
Ça peut jouer.
Ça peut jouer sur l'attitude.
Il y a aussi. Je me souviens d'une personne qui. Et que j'avais interrogé, voilà, c'est pour un témoignage, qui m'avait dit, en fait, voilà, moi, pour mon travail, je dois avoir des factures de restauration assez régulières, puisqu'on invite beaucoup de personnes, et voilà, après, on se fait rembourser par l'entreprise, mais je dois avancer ces frais. Et la banque lui avait dit, ben non, moi, je bloque l'accord de prêt parce qu'il y a trop de factures de restaurant, en fait.
C'est dingue.
Vous avez un train de vie
et la banque ne voit pas que l'entreprise rembourse derrière, qu'il s'agit vraiment de frais professionnels.
Elle a dû le prouver, apporter les justificatifs, montrer qu'elle se faisait bien rembourser par l'entreprise.
La banque, elle a un système de scoring. Aujourd'hui, ça se fait en plus de façon automatisée. Et que quand vous sortez des cases, si vous sortez un petit peu...
Oui, c'est ça. Si c'est ponctuel, oui, ça passe.
Si vous voulez changer de voiture parce que votre voiture est tombée en rade, la banque peut le comprendre. Si vous êtes tout le temps découvert que vous allez au casino et que le crédit conso pour les vacances, là, ça va moins marcher. Quoi.
Ouais.
C'est pour ça, ce qui est très important, c'est d'anticiper. Si on a un projet immobilier à la rentrée, mieux vaut aller voir la banque ou un courtier pour commencer à bâtir le dossier en amont. Savoir, par exemple, si vous avez les moyens, il y a un excellent moyen pour convaincre la banque, c'est de solder les crédits en cours quand on peut le faire.
Ouais, bien sûr.
Si vous avez des crédits conso, vous les soldez maintenant. Vous allez déposer votre dossier dans 3 mois, on verra qu'il n'y a plus de crédit. Donc ça va vous donner un taux d'effort
qui
va
être
supérieur.
Signal, bien sûr,
et ça va rassurer la banque sur le fait que vous gérez bien vos finances. Tout ça pour dire que ça se prépare.
Bon, bah super, on a les conseils pour nos futurs acquéreurs et négociateurs avec courtiers et banquiers. Bon, ça c'est pour la projection. On va regarder un tout petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois, et notamment sur nos gros marchés. Alors on a évidemment le 9, et ce sera un gros bout. Mais on a aussi l'ancien, et alors là on les a tous eu, hein, Century, Orpi, Foncia, l'Adresse, la Forêt, j'essaye de réfléchir. Ils ont tous publié cette semaine, et ils sont globalement... plus ou moins sur la même ligne, ça se tient, mais c'est fragile.
C'est ça. Le premier semestre, il a été en dents de scie, en fait. On a l'impression, au début de l'année, ça avait bien redémarré, janvier, février, puis arrivée la guerre au Moyen-Orient, donc le contexte géopolitique, ouais. La hausse des taux, donc à refroidir un peu les acquéreurs. Et ils sont tous à peu près sur la même longueur d'onde, mais il y en a un qui me paraissait encore plus pessimiste que les autres, c'était Foncia, qui hier vraiment était catastrophé.
Carrément.
Il disait qu'en 54 ans d'existence du réseau, ils n'avaient jamais vu une telle crise. Et ils étaient très alarmistes. En fait, ils expliquaient que côté acquisition, il y a une chute marquée. L'horizon s'est complètement assombri. Le volume des ventes, il a chuté de 7%. Même le volume des annulations, en fait, des compromis de vente, lui, il a augmenté de 11%. Donc, des personnes qui signent le contrat.
Mais sur l'intégralité du premier semestre ou juste post-déclenchement guerre au Moyen-Orient ?
Intégralité premier semestre, mais vraiment plus marqué. Là, les deux derniers mois, là, mai et juin, ont été vraiment catastrophiques pour eux. Et en fait, ils nous expliquent, là, voilà, les banques disent que les taux ont augmenté très peu à chaque fois de 0,5. Mais en fait, cumulé, ça fait quand même une hausse importante.
Ouais, et même sur certains profils d'accédants.
Voilà, et donc, les acquéreurs ne veulent plus. Même dans le locatif, ils nous expliquaient que c'était une crise incroyable, qu'actuellement, à Paris, Foncia n'a que 70 biens à louer en ce moment.
Biens à louer.
Pour 225 000 dossiers conformes qui remplissent tous les critères qui ont été déposés en France et à Paris, ils n'ont que 70 à proposer. Donc, ils étaient assez alarmistes. Et ce que nous disait Century, ça c'était assez intéressant, c'est qu'on parle beaucoup du retour des primo-accédants.
Ouais.
Et il y a un réel retour des primo-accédants, mais il faut aussi voir que c'est un retour qui peut être en trompe-l'œil. Parce que si la part des primo-accédants donc, a augmenté, c'est parce que la part des secondos aussi a diminué.
Et pour cause, Marine.
Puisque ceux qui vont acheter à 1%, aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'acheter à 3,50, 3,60. Donc, ils préfèrent rester.
Ils ont acheté à 1% et avec des prix stratosphériques.
Et après, voilà, des prix qui n'étaient pas non plus les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, eux, ils sont bloqués, ils sont empêchés, comme le disait Charles Marinakis, le président de Century 21. Et donc, ils n'ont aucune envie d'acheter. Voilà, donc ça c'était quand même...
Et juste d'un mot quand même, et après on passe au neuf, mais sur la perspective prix-volume pour cette année, parce que globalement, voilà, il y a des pessimistes, des optimistes, des attentistes, mais globalement on va être sur quel volume de vente si on en croit les projections.
On devrait, en 2025, on avait fait 950 000 ventes, on devrait atteindre à peu près ce niveau dans les 900 000, 950 000.
Donc ça reste quand même un pas mauvais, honnêtement.
Pas mauvais, mais on est toujours sous la barre
du million. Oui, mais enfin, c'était peut-être le million qui posait problème
auparavant, et les prix commencent à baisser un peu, mais bon, pas partout.
Donc premier signal, prix de baisse quand même, et volume qui, quand même, vont quand même rester à un niveau correct,
quand même se maintenir à peu près. S'il n'y a pas de reprise du conflit.
Oui, avec des.
Ce que disent les réseaux quand même, c'est qu'il y a une assez bonne nouvelle, c'est qu'il y a une hausse de l'offre. Foncia parle de 5%. Chez l'adresse, il y a 33% des agences qui constatent qu'une hausse de l'offre. À la forêt, on est à 8% national.
Ça veut dire retour du pouvoir des acheteurs, quand
c'est-à-dire
même. Ça.
C'est-à-dire qu'on met davantage. Et surtout, il y a les acquéreurs négocient beaucoup. Donc, le vendeur, lui, ce qui est très important pour lui, c'est ce que disent tous les réseaux, les Foncia, la forêt, ça, c'est, il faut bien faire attention à fixer son prix dès le départ. Mais pour les acquéreurs, ça veut dire aussi qu'il y a des opportunités et qu'en faisant son marché, en négociant, on peut aussi faire de bonnes affaires. Donc,
ouais,
peut-être que c'est l'une des clés de la résilience du marché.
Oui, bien sûr. Bon, le marché de l'ancien, encore une fois, extrême prudence, mais globalement, on a fini par dire que ça se tenait quand même un peu. Le marché du neuf, le redémarrage...
Alors, sur le neuf, on en parlait il y a 15 jours. Chez les promoteurs, c'est toujours très compliqué. On a une baisse des ventes aux alentours de 20% d'après sur les 5 premiers mois de l'année, ce que disait le cabinet adéquation. Chez les constructeurs, ça va un petit peu mieux, mais... Comme dans l'ancien, ces deux marchés ont beaucoup pâti de la guerre au Moyen-Orient, qui a quand même cassé la confiance. C'est un des principaux facteurs de ralentissement sur l'immobilier en général. Après, dans le neuf, ce qui est assez paradoxal, notamment chez les promoteurs, c'est que vous avez toute une série de facteurs extrêmement favorables, notamment pour les primo-accédants, où vous avez des financements aidés, on en a parlé, les banques.
Parce que oui, effectivement, les fameux prêts bonifiés dont on a beaucoup parlé, ils sont encore plus bonifiés
si vous achetez du logement performant. C'est valorisé dans le bilan des banques.
Sans parler du prêt à taux zéro de l'État.
Ça, vous avez, donc il y a les banques, il y a les financements aidés, vous avez l'accession aidée, je crois que c'est Norbert Franchot lundi qui en parlait chez vous, avec le BRS,
réel,
où on sépare le prix du logement du prix du terrain. On a des opérations autour des quartiers en rénovation urbaine avec une TV arriver à 5,5 contre 20% habituellement.
Et ça s'ajoute.
L'allocation accession aussi, qui est en TVA 5,5, qui est un mécanisme dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est une des clés pour relancer le pouvoir d'achat.
Oui, alors vous avez dû voir notre émission, et alors les deux invités, dont Norbert, nous disaient quand même que sur le PSLA, donc cette location accession, pour les ménages plutôt modestes, elle ne décolle plus du tout là.
Ouais, mais
c'est fou parce qu'elle a énormément d'atouts. Hein.
Ouais. Et puis, vous avez aussi les promotions des promoteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ils ont
du
mal à vendre,
ils vont vous offrir
les frais de notaire, et puis on voit ponctuellement, alors c'est souvent très très ponctuel, et c'est souvent au lancement du programme, mais vous avez des promoteurs qui vont vous offrir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par pièce. Donc, si vous comptez les frais de notaire...
Et si vous achetez en 12 pièces
la subvention du promoteur par pièce, plus les financements aidés, plus l'accession aidée, bien vous avez quand même une énorme augmentation du pouvoir d'achat. Et ça a toujours du mal. Et je pense qu'effectivement,
mais c'est vrai que ce qui est assez dingue, et vous avez tout à fait raison, et je vous remercie d'en parler, Pierre, parce que c'est difficile à expliquer. Mais effectivement, quand on a des acheteurs, des primo-accédants qui voient les prix du neuf qui sont quand même globalement nettement plus élevés que ceux de l'ancien, à quelques exceptions notables près, mais enfin quand même, ils se disent « Ah ben non, c'est pas pour moi ». Mais sauf que si vous prenez en compte le fait que vous allez faire effectivement en plus sauter les frais de notaire et tous ces prêts aidés, bon an, mal an, le neuf, il n'est pas forcément plus cher. Et en plus, il vous garantit une performance énergétique que vous n'obtiendrez pas comme ça dans l'ancien.
Charge maîtrisée, exonération de taxes foncières pendant 2 ans. Ça veut dire que derrière, vous avez un confort en matière de reste à vivre et en matière de charge de copropriété.
C'est-à-dire
qu'il faut toujours garder une marge de manœuvre. Or, le neuf, dans ces conditions, vous l'offre beaucoup plus facilement puisque vous avez très, très peu de charges, du chauffage et... De temps en temps de la clim.
On va en parler. Il est en train de me faire la petite transition. Vous avez vu la petite transition?
Vous savez, une maison neuve de 100 mètres carrés que vous faites construire, par exemple, dans les Pays de Loire, eh bien, en dépenses d'énergie par an, ça va vous coûter entre 600 et 800 euros, grand maximum, tout compris. Donc,
c'est important de le dire parce qu'effectivement, je pense que c'est un peu la clé de ce qu'on fait tous dans ce métier de journaliste immo-logement. C'est de rappeler aussi des choses qu'on ne voit pas forcément. Comme ça, sur les annonces immobilières. Et parfois, cette fameuse auto-censure dont je parle assez souvent, que ce soit pour le crédit, mais aussi pour des prix qui, facialement, ont l'air très élevés, mais qui, bon an, mal an, quand on fait tous les calculs,
Vous regardez le rapport qualité-prix.
Et voilà. Et on va parler qualité.
Et si vous achetez aussi en quartier prioritaire de la ville, vous pouvez aussi avoir une TVA à 5,5 si vous êtes à la limite d'un quartier qui est en train de s'embellir.
Oui, mais ça aussi, ça joue effectivement sur les prix, parce qu'en plus, il y a les prix. Oui, c'est ça.
Bah, une TVA 5,5, c'est 15% de réduction sur le prix. Donc,
C'est ça qui peut vous faire passer le crédit, en fait, parce qu'il manque souvent ça.
Ouais. On parle de la clim ou pas, alors?
Allez.
On y va? Alors, d'abord, on reviendra sur la clim et le neuf. Mais déjà, la clim, elle existe, parce que là, on sent qu'il y a des espèces de bagarres dans les copropriétés. Bon, là, on va pas se mentir, on n'y voit pas trop clair sur qui a le droit de mettre la clim, quel type de clim. Marine, aidez-nous. Vraiment.
C'est très compliqué. On voit de plus en plus d'installations un peu sauvages fleurir dans les immeubles, en fait, des voisins qui ne demandent pas l'autorisation à la copropriété, qui installent ça, qui disent qu'ils ne savaient pas. Alors, est-ce que vraiment ils ne savent pas? Peut-être pour certains, pour d'autres, on en doute. Voilà, parce que normalement, on est censé l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de copropriété. Il faut que ce soit voté.
Ouais, mais il y a Alban qui me dit mais du coup, comment on fait? Ça prend un an. Que j'ai chaud maintenant et j'aurais fait l'année prochaine.
On met une clim,
que ce soit accepté d'ailleurs.
Une clim mobile en attendant, où là il n'y a pas besoin d'autorisation.
Alors c'est les clims mobiles avec le tuyau qui sort, mais pas le petit.
Parce qu'en fait, à partir du moment où ça touche à la façade de l'immeuble, où ça peut modifier la façade, là il faut vraiment demander l'avis en Assemblée Générale de Copropriété. Il faut aussi parfois demander l'avis en mairie, faire une déclaration de travaux en mairie, voir si l'adjoint du maire en charge de l'urbanisme donne l'accord ou non.
Donc, et puis il y a les architectes des bâtiments de France, on rappelle.
Les architectes des bâtiments de France. Ensuite, une fois qu'on a eu l'accord, il faut installer un panneau souvent de.
Attention, je vais mettre une clé.
Voir si les voisins ne contestent pas non plus. Non, mais c'est tout un processus qui est assez laborieux.
Mais, pardon, mais Marine a raison. Par exemple, sur les voisinages, si vous avez une climatisation qui fait du bruit, qui est mal installée, avec des condensats, des rejets, vous allez pourrir la vie du voisin d'à côté, et ça va détériorer le climat.
Je vous entends. Hein, puis parfois, on a des vis-à-vis. On a très peu d'espace entre deux immeubles. Si c'est pour que celui d'en face, qui lui n'a pas de clim, se prend en plus la chaleur, parce qu'on rappelle, la chaleur qui sort, c'est pas ça qui provoque le réchauffement climatique, mais il provoque le réchauffement tout court. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, ça pose question quand même. Ça peut augmenter de 2-3 degrés les environs, quand même. même. Hein.
C'est très contestable. C'est un sujet
non, ça c'est pas contestable. Non, non, sur le réchauffement environnant, pas le réchauffement climatique.
Il y a des études qui ont été faites. Si vous êtes dans une rue étroite, ça peut monter de 2 degrés. Si vous êtes sur le bord d'un boulevard, ça va monter d'un quart de degré.
Oui, mais du coup, ça me dérangera moins si on est dans un grand boulevard.
Voilà, mais voilà, c'est vraiment le cas par cas. Il faut garder des généralisations. Mais effectivement, sur la façade d'un immeuble, normalement, on n'a pas le droit d'y toucher sans avoir une autorisation. Or, vous avez, c'est le cas dans ma copropriété. Il y en a un qui s'est climatisé sans rien demander à personne.
Et alors, vous l'avez
reconnaître. On en parlait avant l'émission, on est en train de travailler le truc pour que ça se passe du mieux possible, en évitant, si possible, les conflits, sachant que de toute façon, avec la multiplication des canicules, il faudra bien que tout le monde s'équipe. Donc, l'idée, c'est de s'organiser.
Oui, mais donc le sujet, c'est quand même à un moment donné aussi, la nature humaine est quand même partie prenante de tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi vivre en bonne intelligence dans une copropriété, parce que on voit pulluler sur les réseaux sociaux des cas pratiques où on se dit mon Dieu quoi, avec des personnes âgées, des seniors qui ont vu les
petits enfants. Santé publique,
mais voilà, non mais
d'accord.
C'est ça. Et le reste de la copro qui dit bah non, c'est quand même particulier quoi ce qui est en train de se produire là.
Mais je pense qu'on peut se parler, travailler ensemble pour trouver des solutions,
oui,
pour voir un petit peu foi en l'homme.
Ouais. Bon, et puis il y a le sujet rapidement, parce qu'après on n'aura pas le temps d'aborder les autres sujets, rapidement quand même, Marine, sur le cas des locataires. Oui. Parce qu'on a vu, alors, il y a eu la pétition pas de volet, pas de loyer. Ouais. On rappelle que non, c'est pas possible, malheureusement, vous ne pouvez pas arrêter, sauf décision de justice, de payer votre loyer sous prétexte qu'il n'y a pas de volet. D'autant que parfois c'est le propriétaire, mais parfois c'est juste qu'il n'a pas le droit. On rappelle l'enjeu Architecte des Bâtiments de France, vote en copropriété, tout ça, tout ça. Bref, voilà. Et l'autre cas aussi pour la clim, est-ce que je peux demander à mon propriétaire ou imposer à mon propriétaire d'installer
Je peux lui demander, mais le propriétaire n'a pas l'obligation de l'installer parce qu'il a l'obligation d'installer un système de chauffage. Ça fait partie des critères de décence et il doit louer un logement décent. Mais la clim ne fait pas partie des critères de décence.
Non, mais c'est ce que vous dites, c'est ça, Marine. Ouais. C'est qu'en fait, aujourd'hui, malheureusement, l'action publique, elle s'est collée sur la question de du froid l'hiver, des passoires énergétiques, mais sans se poser la question des bouilloires. Si, le jour où on rend les bouilloires indécentes, il y aura des obligations quand même.
Je pense que ça va finir par venir. Mais aujourd'hui, donc si le propriétaire accepte, là encore, il n'est pas tenu de payer ce système de climatisation. Ça peut être au locataire de le payer. En tout cas, le locataire devra assurer un entretien régulier tous les deux ans, même si c'est le propriétaire qui accepte de payer ce système de climatisation.
Donc l'entretien restera à la charge du locataire. Bon, à savoir, votre propriétaire peut être très sympa et vous dire ok, mais attention, l'entretien c'est pour vous. Allez, on termine la boucle quand même sur cette clim. Pierre, moi je les ai vus aussi pulluler ces messages-là. Je comprends pas. Je viens d'être livré il y a 2-3 ans de mon super logement neuf. Et pourtant, chez moi, il fait 30, 32, 33, 34.
Parce que la réglementation, notamment, c'est beaucoup les programmes sous l'ancienne réglementation, la RT 2012, où la priorité, c'était la lutte contre le froid l'hiver. Et les besoins de refroidissement, de confort d'été ont été sous-estimés. Ça s'est amélioré avec la réglementation environnementale 2020 qui pousse à la conception bioclimatique. L'idée, c'est que avant de climatiser, on va optimiser le bâtiment avec des protections solaires, de l'inertie, des formes compactes.
Ouais, mais il y en a plein qui nous disent que eux, ils sont sur une livraison qui est intervenue il y a 2 ans, RE2020, et que ils ont quand même très très chaud. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même dans le neuf, il va falloir mettre de la clim. C'est impossible de faire autrement.
Je pense que si on a des vagues de chaleur comme on l'a vu à 40, 42, voire 45 degrés pendant une semaine, 10 jours, la clim ce sera indispensable. C'est une question de santé publique. Enfin, quand vous rentrez chez vous, qui fait 41 dehors, qui fait 35 degrés chez vous, vous pouvez pas dormir. Ça dégrade les relations avec les gens. On parlait des personnes vulnérables.
Et on vote pas la clim en copro, parce que les gens sont fâchés.
Non, mais voilà, ce sera indispensable. L'idée, c'est de pouvoir adapter le neuf et c'est prévu. C'est-à-dire que c'est très technique, mais quand vous êtes en dessous d'un certain niveau de confort d'été, a priori, le côté bioclimatique doit suffire à rendre les choses à peu près vivables avec des fermetures solaires automatisées, beaucoup de domotique.
Ouais,
si vous êtes au-dessus de ce niveau-là, comme la réglementation plafonne les consommations d'énergie, on prévoit un forfait. Donc, pour installer la climatisation après. Vous avez aussi beaucoup de programmes neufs ou de maisons individuelles. Par exemple, c'est l'Observatoire des modes constructifs du Pôle Habitat qui nous dit qu'en 2025, il y a pas loin d'un tiers des maisons qui ont des pompes à chaleur RR qui font du chaud en hiver et du froid. Ouais. Et chez les promoteurs, le même observatoire du Pôle Habitat nous dit qu'on doit être à 23%. Donc, ça veut dire que c'est possible, mais il faut aussi que les logements puissent s'y adapter. Par exemple, aujourd'hui, les hauteurs de plafond sont à 2,50 m. Si vous voulez ajouter une clim, vaut mieux à 2,70 m. Mais si vous êtes à 2,70 m, vous perdez un étage, donc l'opération n'est plus rentable.
Ouais,
d'autant que souvent, sur un autre domaine, les promoteurs, la Fédération des promoteurs, Pascal Boulanger, son président, nous dit que les gabarits sont remplis à 70%. C'est-à-dire que vous pouvez faire 100 logements avec le règlement d'urbanisme, mais la commune veut dire non, on va faire 70. Ouais. Donc ça, et vous supprimez un étage, le promoteur n'a plus aucun intérêt. Enfin, il travaille comme tout le monde, comme les boulangers, les cordonniers, ils travaillent pas à perte. Donc l'opération perd tout intérêt. Après, vous avez aussi des solutions. On a beaucoup parlé d'un programme qui vient d'être livré à Montpellier.
Il y a pas mal de reportages, extraordinaire.
Et que, alors,
en Montpellier est aidé.
Ils sont aidés par le vent marin, tout ça, mais c'est très, très bien conçu. Et on arrive quand même à faire des choses. Voilà. Mais il faut être un peu nuancé. Et puis,
ce que je voudrais aussi, c'est qu'on
n'a pas beaucoup entendu les architectes et les ingénieurs thermiciens dans des débats, notamment avec des politiques, où tout le monde assène des choses.
Ouais,
ces professionnels-là ont leur mot à dire, puisque ce sont eux qui fabriquent les bureaux d'études.
Bien sûr. Juste d'un mot, quand même, avant de passer rapidement, on n'aura qu'une minute, mais bon, c'est le collectif Nos Villes à 50 degrés qui disait hier, une majorité de logements sont adaptables aux vagues de chaleur grâce à des actions simples, comme la pose de volets, l'isolation des toitures et l'installation de brasseurs d'air, tout en limitant le recours à la climatisation. C'est ça la nuance, c'est-à-dire quand on n'a pas le choix, on met la clim, quand on peut faire autrement, on voit comment ça se passe. La nuance.
Et quand on voit qu'il y a 34%, c'est ça, 34% de logements qui ne sont pas équipés de volets.
De volets, mais encore une fois, vous vous rappelez du plan volet Diane Brossat que j'avais salué depuis un temps au moment de la course municipale, il y avait eu des tacles, je me souviens. Hein. Et franchement, enfin, à un moment donné, voilà, à quoi on en est réduit, à dormir dans les parcs publics. Bref, immobilier de luxe.
Qu'on veut
vous avez 30 secondes pour nous mettre un peu de paillettes dans nos vies.
Alors, l'immobilier de luxe, on a eu plusieurs conférences ces derniers temps, là, notamment Barnes cette semaine, qui nous disait que l'année 2025 était très bonne, encore meilleure que 2024, plus de 20%. Donc, c'était la cinquième meilleure année de la décennie, d'après Belle Demeure, donc qui référence des annonces immobilières de luxe.
Il y a la clim là-bas ? Non, je plaisante.
Alors, justement, c'est marrant parce qu'on a parlé aussi de la clim avec Sébastien Cuperfis, le président de Juno, qui nous disait que c'était un critère, mais aussi important qu'une vue sur la tour Eiffel ou qu'un étage élevé, et que c'était rédhibitoire des logements sans clim dans le luxe, notamment pour les Américains, qui eux sont habitués chez eux à avoir la clim
tout le temps.
Voilà, et même les Français qui vont vivre à l'étranger, à Singapour ou autre, qui reviennent en France.
Ils ont pris l'habitude, bien sûr. Mais juste, donc rapidement, ça va bien ce marché de l'immobilier
donc ça va bien, surtout l'ultra-luxe qui se porte encore mieux. Mais malgré tout, ça devient là aussi un marché d'acquéreurs et pas de vendeurs. Donc les vendeurs aussi doivent faire des concessions, sauf si leur bien est parfait. À ce moment-là, il n'y a pas de concession. Mais justement, Barnes nous parlait là d'un château qui est resté sur le marché 12 ans. Barnes avait conseillé de le vendre à 3 millions. Le vendeur s'était accroché. Il disait non, j'en veux 8.
Et donc, il s'est vendu à combien ?
À 3.
Et ben voilà, ça sera toute l'histoire. Vous les vendrez à 3 millions. Vous les vendrez à 8 millions. Vous vendez à 3 millions de toute façon. Les riches comme les pauvres, vous êtes confrontés à la même chose. Il va falloir baisser les prix pour trouver des acheteurs. Merci à tous les deux. Marine Richard, journaliste immobilier au Figaro, et le journaliste indépendant Pierre Chevillard qui était avec nous. Les experts de l'IMO reviennent lundi sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.